ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Campus Grenoble 90.8. Ça, c'est pour les anciens qui, comme nous, préfèrent le système hertzien. Mais pour les jeunes gens modernes, comme on disait dans les années 80, eh bien, il existe le Internet. Avec le site de la radio campusgrenoble.org qui vous permet de nous écouter en direct et de nous réécouter grâce à la fonction podcast. On va passer une heure à parler du meilleur, du plus grand, du plus iconique des groupes de rock grenoblois, les Batman. Ouais, en toute modestie, bah, c'est moi qui le dis, donc ça va, vous pouvez y aller tranquille.
Attends, je remonte sur ma chaise.
Lâche-toi.
C'est ça. Puisque j'ai la chance et le privilège d'avoir dans les studios la section rythmique des Batman, messieurs, bonjour.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien.
Bien, on survit, on s'est préparé pour l'hiver, vitamine C, combattre, vitamine D, défendre.
Donc on est prêt. Et je vous laisse vous présenter vite fait, chacun, qui commence? Celui qui tape le plus fort, donc le batteur. Oui, forcément.
Christian, cet homme, ces symboles.
Oui.
J'ai appris à jouer de la batterie tout seul dans le garage de mes parents, comme beaucoup, en mettant les Creedence, les Who et les Zeppelin à fond la caisse, quoi. Et puis après, j'ai mené mon petit chemin, toujours dans de la compo, jamais fait vraiment de reprise. Et voilà, je suis arrivé sur Grenoble en 77, je crois. Et puis,
parce que t'es originaire d'où?
Des terres froides.
Ouh.
De Chabon, exactement.
Gros changement quand t'es arrivé ici, alors.
Ah ben, ouais, c'est sûr. Et donc, j'ai cherché à jouer. Je suis allé, je sais plus si c'est chez Charlot Musique ou Danold, où il y avait des annonces. Et j'ai répondu à une annonce, et c'est comme ça que je suis tombé sur Patrick. Donc, c'est un des premiers musiciens avec qui j'ai joué quand je suis arrivé sur Grenoble.
Bien avant Mythique.
Le hasard fait bien les choses dans ce cas-là.
Donc, on a monté... un premier groupe qui s'appelait Gloria Footing, c'était un rock un peu progressif et tout. Après, on est passé sur un groupe qui s'appelait Bandit, où c'était plus rock'n'roll, et après, on a eu les Batman, quoi.
Et Patrick, toi, c'est quoi ton parcours?
Le parcours, moi, je suis né Corbéria.
Là, on pourra pas faire
et
mieux.
On s'est rencontrés avec Christian, donc on répétait rue Nicolas Chaurier, donc pas très loin. Donc le parcours a été court. Et au niveau musical, du coup, les mêmes groupes, puisque j'ai fait un petit groupe avant de rencontrer Christian. On avait attaqué le répertoire de Aerosmith, tout en ne sachant pas jouer de la guitare, et avec un batteur qui était poliomyélite. Mais on adorait Aerosmith.
Oui, ça se défend comme point de vue, je trouve. Et t'as joué de la guitare avant la basse ou l'inverse?
Non, j'ai joué de la guitare avant, et c'est pour les besoins de la cause. Quand on a rencontré Roberto, à la première répète, je me suis fait prêter une guitare basse par un pote, Alain, qui nous a suivi aussi avec le groupe, dont les cordes, je me rappelle bien, c'était à 3 cm du manche.
Pas l'appuyer fort avec les doigts.
Ouais, mais bon, du coup, comme ça, on a pu démarrer en trio, et j'ai vite acheté ma précision, que j'ai toujours d'ailleurs.
Et oui, ça vaut le coup d'investir dans un instrument de qualité. Hein.
Oui, il faut de bons outils.
C'est ça, c'est plus facile. Les Batman, vous avez démarré à 3.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et le Roberto, vous l'avez rencontré comment?
Si tu veux, à Grenoble, il y avait une grosse effervescence autour des magasins des disquaires. Ouais. Donc, il y avait Rock Contact, et puis à Lancey, il y avait Raymond qui était dans une asso qui organisait plein de concerts. Donc, on a vu
à la MJC.
Non, c'était une salle qui est maintenant c'est la salle de cinéma de Montbonneau. C'est devenu la salle de cinéma.
D'accord.
Ouais. Et là, on a vu. Les Lords of the New Church, Gun Club, Dr. Feelgood, Girl School, enfin j'en passe, c'est des meilleurs.
C'est écœurant.
Donc, du coup, et du coup, on se retrouvait tous au bar, et puis petit à petit, on se connaissait, et un jour, Raymond et Roberto sont venus nous voir tous les deux, comme notre groupe, on s'était séparés, pour nous demander si ça nous brancherait d'essayer de monter un groupe, quoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Et à la première répète, ça l'a fait, quoi.
Ouais.
C'est un truc assez dingue, c'est que ça, les morceaux, tout ça, ils venaient tout seuls. Roberto a une grande capacité à improviser à la voix, et puis chanter en yaourt et tout, ça sonnait tout de suite. Et nous, derrière, ça tombait tout de suite, on ne savait pas trop... Enfin, voilà, il y a une magie, quoi.
Ça peut pas s'expliquer. Moi, j'ai joué que dans un seul groupe et ça marchait comme ça.
Ouais,
c'est ça. T'arrives, tu dis, bon, on va faire un essai et au bout de 20 minutes, c'est plus un essai, quoi.
Ouais, c'est ça.
Sais que tu vas le faire.
Ouais. Ça s'appelle alchimie.
Ah ouais, ouais, mais c'est des gens pas forcément très doués, mais ça marche ensemble, quoi.
Tout à fait.
Puis après, chacun évolue et c'est voilà. C'est pour les gens qui ont jamais joué en groupe, tu peux passer ta vie à essayer plein de musiciens et ça tombera jamais comme il faut. Et puis, ou du premier coup, tomber sur la bonne personne.
Ouais, ouais.
Tout à fait.
Et ça, c'est, voilà, c'est un peu comme en amour, c'est une alchimie qui ne s'explique pas.
Ça ouais, et puis en plus, on était vraiment branchés sur les mêmes trucs au même moment. Ouais.
Ça aide aussi, oui.
Ouais, c'est vrai que même musique, ouais.
Ouais. D'où l'influence aussi, je ne sais pas si tu connais, il y a un bouquin de Francis Dordor qui est sorti sur les disquaires.
Ouais.
Et ça, tu vois bien l'importance qu'avaient les disquaires à l'époque dans les villes et tout, parce qu'ils arrivaient même à imprimer une sorte de style par ce qu'ils passaient dans leur magasin et tout. Quoi.
Carrément,
Et donc, ouais, on était plein de zikos, qui était une grosse effervescence dans ce style de rock et tout, qui nous plaisait bien, et puis on s'est trouvés tous les trois comme ça, quoi.
J'avais un peu cette discussion avec de jeunes gens qui ont 17 ans. Ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'allais dans un magasin de disques acheter mes disques. Tu vois. Et là, tu dis, bon, je ne sais pas, mais moi j'ai une meilleure conversation avec un être humain qu'avec un algorithme de recherche. Alors effectivement, je peux pas. Il y a plein de disques que je ne trouverais pas chez le disquaire et que si j'avais envie de me faire chier à chercher sur Internet, j'arriverais à dégoter. Mais en fait, ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi. Tu vois, c'est l'échange avec des gens.
Ah bah ouais.
Et puis le mouvement des doigts.
Puis quand la personne te connaît et dit tiens écoute j'ai reçu ça et tout.
Puis après tu peux aussi discuter avec d'autres gens dans le magasin que t'as jamais vu de ta vie mais qui ont un peu déjà des affinités dès le départ sans que tu les connaisses et ça crée aussi des liens, des amitiés ou des rencontres qui sont importantes. Et c'est pas sûr que chez Amazon ils créent autant de liens sur les êtres humains, tu vois. Donc monsieur Raymond a aussi une importance considérable dans votre histoire.
Bah ouais, c'est ça, ouais. Après, il est devenu notre manager, quoi, d'entrée, quoi. Et puis nous, les concerts, ça, c'est parti tout de suite. De notre premier concert, ça accrochait tout de suite. On était un peu pas dépassés par le truc parce qu'on se régalait, mais nous, on bossait tous. Patrick et moi, on était dans le bâtiment. Ouais. Roberto, il était dans une imprimerie et tout. On faisait ça à côté de nos boulots, quoi. Et c'était super, hein. Pour nous c'était on était émerveillés, quoi, de ce qui nous arrivait de rencontrer tous ces gens, de jouer dans toutes les villes et tout.
Oui, c'est ça. En fait, vous avez fait à peu près le contraire de ce que font les groupes grenoblois depuis, c'est-à-dire que vous n'avez pas hésité à aller jouer ailleurs.
C'est-à-dire l'occasion s'est présentée, quoi. Nous, il se trouve que ce qu'on faisait, ça plaisait, ça parlait aux gens, et nous, c'est sûr qu'on... Parce qu'aller jouer ailleurs, c'est vrai que des fois, tu peux envoyer des trucs, puis ça...
Ça colle pas.
Ça colle pas, quoi.
Ouais, tu es pas rappelé. Ouais.
Mais enfin, à l'époque, c'était pas... il fallait envoyer des cassettes, on avait des notes de téléphone de fou et compagnie.
J'ai de bons souvenirs,
ouais. Tu vois, un peu,
ouais. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis souvent. Enfin, quand j'ai travaillé dans une maison de disques, je disais toujours aux gens, tu vas jouer à Dijon et s'ils ne jettent pas des pierres, c'est que t'es bon. C'est sympa de jouer pour tes potes, mais il y a un moment, bon, est-ce que t'es sûr qu'ils te disent vraiment la vérité sur ce qu'ils pensent de ce que tu fais?
Ah oui,
tu peux être le meilleur groupe du monde dans ta cave, si tu ne sors pas de ta cave, le monde n'en saura rien, quoi.
C'est ça.
Et paradoxalement, ça marchait presque mieux même à l'extérieur.
Oui, puis bon, il y a aussi en tant que groupe, quand tu arrives dans une ville que tu connais pas, il y a une excitation qui est pas tout à fait la même que quand tu joues dans le bar qui est en bas de chez toi, quoi. On va pas se mentir non plus.
Ah ouais.
bah, Ouais, ouais. On n'avait pas besoin de rajouter de l'excitation, mais c'est vrai que jouer dans un endroit qu'on connaît pas, ça aide à, ça donne encore plus de brûlant à la chose, quoi.
Tout à fait. Vous êtes dans les studios de Radio Campus Grenoble aujourd'hui parce que vous avez eu une grosse actualité à la fin de l'année dernière ou au début de cette année, je sais plus. À force.
Eh bien, disons qu'il y a eu un temps de gestation.
Un peu long.
Ben oui, mais en même temps long et court à la fois, puisque les presseurs nous ont dit qu'il fallait bien 2 ans normalement pour pondre un vinyle, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il y a eu les déboires de matières premières manquantes, etc. Plus les cartons tombés du camion. Enfin bon, on a eu un peu tout.
Toutes les galères du rock'n'roll.
Mais on s'en est bien sortis. Tout est maintenant... Tout s'est bien passé pour finir.
C'est une compilation qui s'appelle Back from the Stone Age. Il y a un LP et avec, il y a un coupon qui permet de télécharger plein de morceaux qui ne sont pas sur le LP parce que sinon il aurait fallu faire un double, voire plus.
Un triple.
Et que là, je te raconte pas le prix. il est sorti quand déjà?
Fin juin, début juillet. Ouais. Il a été repoussé de 15 jours en 15 jours pour les raisons qu'on vient de te dire.
Ouais.
Donc il est arrivé début de l'été.
C'est ça. On peut le trouver par exemple à Grenoble chez Harry Morgan.
Voilà.
Il doit en rester une poignée d'exemplaires. Faut se manier parce qu'il n'y en a presque plus.
C'est
un peu le message.
En même temps, on a dû en refaire.
Bah oui.
Puisque les 300 qu'on avait fait au départ sont partis très 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 rapidement. Et donc, à l'heure actuelle, il nous en reste une trentaine qu'on peut trouver donc, soit chez Harry Morgan, soit auprès de 19 aussi.
19 something.
Et sinon, vous allez...
L'excellent label des Monsieur Souris.
Voilà. Sinon, sur la page Facebook des Batman, et là, on est en lien et il n'y a pas de souci.
Facebook.com/TheBatmanMusic.
C'est ça.
Pour être précis, il y aura évidemment tous les liens sur le podcast de cette émission. On parle de musique, c'est pas mal, mais si on en écoutait, vous en dites quoi?
Ouais.
On démarre par le Batman thème.
Allez.
Bah forcément, il n'y a pas d'autre choix. Les Batman dans les studios de Campus Grenoble 90.8 et immédiatement dans vos oreilles. Now to the Batman flyer. Les Batman réinterprétant le thème de Batman, hein, forcément. il y a tout un univers autour de tout ça.
Oui. Et puis on a été influencé pas mal par la reprise qu'en avait fait Linkway, justement.
Monsieur Linkway.
Monsieur, oui. Excusez-moi.
Votre local de répétition s'appelait la Batcave.
Oui, voilà, c'était Place Saint-Bruno, ça a tout été rasé maintenant, là, mais c'était un endroit... bien cool. Au-dessus, il y avait des bureaux, je crois. Donc le soir, il y avait personne, donc on pouvait faire tout le boxon qu'on voulait, quoi.
Inviter des potes.
Il y avait du monde qui passait, c'est sûr. Et c'est un endroit qu'on louait à une agence. Hein. On n'était pas sponsorisé par personne. Tous les mois, on crachait au bassinet, quoi.
Bah, oui.
Et donc, comme on était des gens, je pense, sympathiques et tout, le vendredi, notre local était toujours plein à craquer. Les gens venaient faire la fête et tout. C'était un truc incroyable. Et des fois, on faisait des impros. Les gens croyaient que c'était des morceaux. Enfin, on était... Ah oui, il y avait... L'énergie qu'on avait en tant que Batman, c'était pas que les Batman, c'était tous ces gens qui étaient autour de nous, ça... Il y avait une excitation permanente, quoi. Puis il y avait des potes dans notre même local, il y avait les Slugger Kings qui répétaient, il y avait les Tiwanakis, les Red Sharks, les Roxette, John Courage et tout, enfin, No Comment, X Group, quoi, Pancho Village, putain, à chaque fois, j'ai des Ted Destroyer et tout.
Il y a des gens qui, ouais, des images qui reviennent d'un coup.
Donc, il y avait une grosse énergie. Et,
une émulation.
Ouais, c'est sûr, ouais.
Et assez rapidement, vous êtes devenu un quatuor.
Assez rapidement, non. Oui. Après 2 ans, je crois. Ouais. Le groupe a duré 4 ans et la moitié s'est faite à 3 et la moitié à 4. Ouais.
Pourquoi vous avez décidé d'avoir un deuxième guitariste?
On avait besoin de rajouter du son et puis... Roberto, comme il chantait tout, il se sentait un peu limité par moment. Et on a demandé à Miguel, qui était guitariste chez Pancho Villa, super groupe punk de Grenoble et tout, et qui est venu chez nous, il avait quel âge, 17 ou 18 ans. Quoi, et,
et, il avait un mot de ses parents.
Et lui, il avait bien il aimait bien les guitares un peu western et tout. Puis les groupes genre 999 et compagnie. Mm-hmm. Donc il a rajouté sa couleur quoi au son du groupe, voilà.
Vous avez également enregistré des disques.
Yes.
Comment s'est fait le premier?
Alors le premier, on a enregistré donc à Grenoble, à Ebain même, dans un petit studio. Alors il y a plusieurs producteurs qui ont été pressentis. Alors là, il faudrait demander effectivement les contacts avec chacun, comment ça a été fait. Je pense que c'est Raymond qui était aux manettes. Donc, dans un premier temps, il y a Peter Zaramba des Fleshtones.
Ouais, avant, il y avait même Tommy Ramone.
Oula, ah ouais. Gros budget d'un coup.
Disons que nous, c'est ce que notre maison de disques Closer nous annonçait. Quoi.
Le mythique label du Havre.
Ouais. Et puis après, ouais, Peter Zaramba qui est venu nous voir répéter dans notre local, le chanteur des Fleshtones. Mmh.
Ça a dû boire de l'eau pétillante à cette occasion.
Vin blanc, vin rouge, oui, je me rappelle bien.
J'imagine assez, ouais.
Si je me rappelle bien.
J'imagine assez, oui.
Ouais, puis...
Et puis après, finalement, c'est Lucas Fox qui est venu produire. Lucas Fox qui a été un temps le premier batteur des Motorhead.
Ouais.
Donc ça fait bien sur le...
Sur le CV.
Sur une parole, il tape, je crois. Ouais.
Mais en tout cas, on s'est très bien entendu. Et puis nous, ce qui nous caractérisait, c'était toujours le plaisir de jouer. Donc, quand vous faites plaisir, ça fait tout fonctionner, en fait.
Oui, tout est facile. En plus, vous avez des références communes avec le monsieur. Donc, parce qu'il a joué dans des trucs assez orientés pop-rock avant ça.
Ouais.
Oui, puis après, il était dans...
Moi, je sais qu'il il nous a fait découvrir aussi, même... un album de Captain Beefheart, ouais, que j'adore. Moi, je connaissais un autre, et celui-là, pour la petite histoire, et j'ai retenu un beat de batterie qui m'a servi dans l'album d'après. Quoi, hein, tu
vois. Tout n'est pas perdu, ça se recycle.
Et moi, en tant que batteur, pour moi, c'était hyper intéressant parce que il m'a appris des choses et tout. C'était bien, quoi. Ouais.
Et il n'y a pas eu trop de problèmes avec la barrière de la langue?
Non.
Non. Il parlait un peu le français quand même. Hein, ouais.
Ouais, il me semble qu'il parlait français. Ouais.
Puis vous parliez tous le rock'n'roll. Les sessions d'enregistrement duraient combien de temps? Parce que bon, maintenant tout le monde a son home studio chez lui avec un ordinateur. Mais à l'époque, on enregistrait sur des bandes.
Je vais te dire un truc. Moi, j'étais donc, comme je t'ai dit, j'étais dans le bâtiment à l'époque. Et en face du studio, il y avait une entreprise de maçonnerie que je connaissais bien. Je les ai vus quitter le boulot le soir et je les ai vus rattaquer le lendemain matin. Voilà.
Et il fallait tout jouer live.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Et, disons qu'on aurait, avec le recul, on jouer live, on aurait aimé en fait faire toutes les prises avec chaque instrument.
Mm-hmm.
Il y a quand même des repiquages. Parce qu'on n'est pas entièrement satisfait des sons obtenus.
Mmh.
Et je pense qu'avec des micros bien placés, on répétait tellement que ça tournait tout seul. Quoi. Il suffisait de capturer live et ça aurait été...
Ce qui se passe aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des nouveaux sons qui arrivaient de batterie et tout, des trucs qui rendent certains morceaux des années 80 assez insupportables des fois. Quoi.
Un peu datés, dirons-nous.
Ouais. Mais c'était le truc... du moment et tout, et c'est vrai que le premier morceau qui nous a fait écouter, mixer, ça nous a surpris parce que c'était pas notre son et tout. Mais nous, on écoutait bien sûr des trucs. Il y a Clash qui s'était séparé. Il y avait Bad, là, le groupe de Mick Jones. Tu vois, t'as des apports d'un peu d'électronique, de machin, mais c'est les débuts et tout. Après, c'est vrai que ça c'est daté et tout. Il y a même le rap qui arrivait. Il y a des. Nous, on écoutait plein de trucs. On se retrouvait sur le rock'n'roll soul. Et en plus, il faut bien reconnaître qu'en son, on avait aucune expérience. Donc. On pouvait pratiquement que s'incliner, quoi. Il aurait fallu s'en tenir au truc presque de base en disant j'aime pas, tu vois.
Parce qu'avant ça, vous aviez pas enregistré de démo ou...
Non. Pour cet album, on avait enregistré une cassette qui était live à Radio Suisse Romande.
Oui, il y a Sleepless Night qui est sur l'album, qui est une démo qu'on avait enregistrée au local, à la Batcave.
Mais effectivement, quand on arrive dans un vrai studio avec des contraintes de temps, parce qu'on paye à l'heure, il faut rappeler ces choses-là, avec un producteur qui vient de l'étranger, forcément, il y a un moment où il y a une pression qui est différente que quand on enregistre chez soi et qu'on a tout le temps qu'on veut.
Ouais, c'est ça. Et nous, on n'avait pas une idée du produit fini, en plus. Après, avec l'expérience et tout, dans d'autres groupes et tout, moi, personnellement, j'ai su un peu mieux m'exprimer et vouloir savoir ce que je voulais plus. Tandis que là, on était tellement contents de jouer que le reste, ça nous intéressait pas plus que ça. C'est pas que ça nous intéressait pas plus que ça, mais tout nous paraissait bien, quoi. On découvrait tout, quoi. Comme ça. Hein, mais c'est ce qui explique un peu cet album qu'on a sorti maintenant, parce que c'est notre. Bien que le son soit. C'est des cassettes des fois dans le local et tout, hein, mais c'est le son vraiment des Batman quand ils jouaient, quoi. Ouais. Voilà.
Justement, les albums des Batman n'ont pas été réédités.
Pas encore.
bonne nouvelle.
Pas encore. Je sais qu'il y a la demande sur le CD, notamment, qui regroupe tous les titres. Et bon, les projets, après, c'est beaucoup de boulot, d'investissement. Là, on va laisser celui-ci s'achever tranquillement. Et après, on verra de quoi fait le futur.
Très bien. On écoute un deuxième morceau ?
Allez.
Going Loco.
Donc ça, c'est un live dans une télé FR3 Besançon.
À Besac, s'il nous écoute.
Et c'est un super moment. Donc voilà.
Il faut rappeler qu'on pouvait jouer en live à la télé.
Et Going Loco, c'était le titre d'un mini fanzine qui était édité par les gens de 19 aussi, qui était un gros fanzine de l'époque et qui éditait de temps en temps une petite feuille de chou qui s'appelait Going Loco. Et la version Going Loco, là, que vous allez entendre, elle était sur un disque souple qui était dans 19. Avec, on était conjoint à Peter Case, le chanteur des Plimsouls.
Rien que ça.
Voilà, ça fait un bon flexi dont on est bien content de ce truc.
Ça en jette. Il y a de quoi. Going Loco par les Batman, extrait de Back from the Stone Age, leur compilation toute récente. Maniez-vous de l'acheter parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hein.
Ouais.
I'm not afraid to
The Batman au bon vieux temps ou le rock passé à la télé? Rappelez-vous.
Et, alors, Going Loco, je voulais juste rajouter un petit truc. Ouais. C'est parce que Roberto, il faisait des super bons textes dont on n'avait pas toujours conscience à l'époque. Il y en a certains, dont celui-là, que j'ai découvert le sens. En fait, c'est l'histoire de Robin qui pète un câble dans la Batcave et Batman sait plus ce qu'il faut faire et tout. Il est dépassé par ce sale gamin qui est avec lui et tout. Voilà, la petite histoire. Mais donc, ouais, il y a ce côté texte et tout. Pour nous, ça semblait tellement naturel et tout, mais il y a quand même des textes qui sont pas mal aussi. Quand même. Voilà.
Et il faut le dire, ouais. C'est important aussi quand le parolier se donne un peu de mal. Mmh. Et puis en plus, pour lui, ça donne plus d'intensité sur ce qu'on peut chanter aussi.
Ah bah ouais, c'est l'interprétation, sûr, ouais. C'est clair.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc après le premier album, eh bien, il y en a eu un deuxième. C'est une logique. Mais
oui, on voulait faire le troisième en deuxième et puis...
ça a merdé, donc on a fait le deuxième avant le troisième. Enfin, c'était un truc trop facile. Qui s'appelait Bubble Skies.
Oui.
Et qui a eu une gestation.
Alors non, c'est le dernier qui a eu une gestation. Donc, on pourra plus parler.
Ouais, ouais.
Non, Bubble Sky, donc c'était l'album avec donc Miguel à la guitare supplémentaire.
Ouais.
Et d'ailleurs, le son est différent, les tempos un peu plus enlevés, et c'est plus riche musicalement.
Mmh,
ouais. Mais bon, on aime les deux. Certains préfèrent l'un, certains préfèrent l'autre. Nous, on aime les deux.
Avec une deuxième guitare, forcément, tu peux travailler sur un tissage mélodique qui est un peu différent. Ouais.
Ouais, je crois que c'est bon pour un groupe d'évoluer, que ce soit par l'ajout de musiciens ou par les orientations prises avec le temps. Je pense que c'est une bonne chose.
Et là, au niveau du son, donc on l'avait enregistré au studio Le Chalet à Bordeaux.
Ah oui.
Et la production musicale, ça s'est partagé entre Kid Pharaon et puis... Il y avait aussi Stéphane Saunier, là, qui est...
ça va comme petite fée qui se penche sur votre berceau, parce que c'est pas les pires. Ils ont produit quelques disques intéressants, ces gens-là.
Ouais, voilà, ouais. Puis donc, c'était une ambiance de potes, quoi, et tout. C'était un bon moment. Puis ça sonnait, là-bas, dans le
chalet.
Je me rappelle la batterie dans une grande pièce en bois, là. Peut-être c'était un truc... Je sais que Raymond, quand je faisais mes prises, il venait s'asseoir devant moi pour en prendre plein la tête. Quoi. Je sais que c'est... Ouais. Enfin, voilà.
Et vous êtes resté combien de temps, justement, au chalet? Parce que là, c'est différent que d'enregistrer à côté de chez soi, comme expérience. Parce qu'il fallait traverser toute la France. C'était pas la même aventure que maintenant.
Il n'y avait pas le TGV,
il n'y avait pas de liaison directe avec l'aéroport, tout ça. Quoi.
Moi, je dirais 8-10 jours.
Ouais.
Ouais, à peu près.
Ouais, ouais.
Mais mixage compris, quoi.
Mm-hmm. Et, ouais. Ouais. Il aurait fallu faire le mixage bien après pour
se prendre reposer un peu de recul. Oreilles, ouais, ouais.
Et puis on était logé dans une petite cabane à côté. En fait, le chalet était sur le site d'un cru vinicole, quoi.
Pas facile non plus, ça, dis donc. Hein.
Ah ben, on était sages.
Bah tiens.
Non, mais voilà, ouais, c'est cet album. C'est vrai que les morceaux sont... Contrairement au premier album où c'était plus brut, les morceaux, comme on découvrait tout, là on avait plus mûri un peu les compos et compagnie. Quoi. Mais bon, ça restait les Batman hein, sur scène, mm-hmm. On était toujours torse nu. Hein,
oui, c'est ça.
Moins en studio finalement.
Surtout l'hiver.
Ouais, ouais.
Ah, ben moi je peux te dire, je me rappelle d'un concert à Annecy, mais dans les montagnes. Au-dessus d'Annecy,
au Semnoz.
C'était, je me rappelle plus de l'endroit, et c'était dans une grange au mois de février, donc sans chauffage et tout. Et ben on était quand même torse nu au bout. Et je te raconte pas les volutes de fumée qui montaient comme ça. C'était joli à voir, paraît-il.
et puis après le deuxième album.
Et bien puis après, entre temps il y a eu quelques 45 tours.
Ben hein. Ouais.
Et
c'est un format que vous aimez bien, le single ?
Ouais, moi
j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, c'est dommage que ça ait disparu.
Oui, quand on voit les coûts de production pour un truc pareil, maintenant, ça ne va pas de revenir en plus.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Ouais. Ouais.
C'est dommage parce qu'effectivement, c'est quand même une façon très rigolote de faire patienter les gens.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis de s'amuser soi-même, c'est pas la même pression que quand on enregistre un album entier, en fait.
Ouais, 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 c'est sûr. Hein.
Oui, oui. Mais ensuite est venu Back from the Stone Age.
Oui.
Qui lui, bon, il n'était pas prévu.
Bah, c'est comme la Reformation.
30 ans avant. Voilà, ouais.
Quand on vous a vu à la source à Fontaine, c'était en
2010, ouais. Ouais. En 2010.
C'était bien.
C'était bien, mais en fait, on aurait pu jouer encore davantage et ça aurait été encore mieux, je pense.
Bah, oui.
Et non, mais on était bien contents de cette date. D'ailleurs, sur l'album, le dernier morceau de La Face est extrait de ce concert.
Bah, oui.
Et c'est un inédit. Enfin, on a essayé sur Back from the Stone Age de mettre pas mal d'inédits, en fait, à part The Beat, qu'on écoutera peut-être après, qui, ouais, lui, est un morceau en concert qui déchirait bien. Il n'y a pratiquement que des inédits sur ce disque. Ah, oui. Donc, si tu veux, quand on s'est séparés, je crois qu'on a tous fait un grand break, voire jeter tout ce qu'on avait comme archive chez soi.
C'est idiot.
Ah oui, mais sur le bien, coup, ouais, c'était fini. C'était fini,
pareil, quoi, ouais, mais on l'a tous fait. Hein.
Ouais, ouais. Et heureusement que non, qu'il y avait quand même beaucoup de choses, en fait, sauvegardées. Et puis
chez les autres.
Oui, et puis en fait, un jour, j'ai eu le désir de faire un CD, faire participer un peu toutes les personnes de Grenoble qui avaient participé à l'aventure, tous les musiciens des divers groupes qui sont nos amis. Et puis, on s'est vite rendu compte que faire un CD de plus,
ouais,
c'était beaucoup plus sympathique de faire un vinyle.
Et oui, bah oui, tu m'étonnes.
Beaucoup plus difficile aussi.
Bah oui, ça, il n'y a aucun doute. Là, ouais.
Oui, déjà, il faut réduire le nombre de morceaux. Et c'est pour ça qu'il y a un bon de téléchargement où il y a 25 morceaux dessus, parce qu'à l'origine, ouais, c'était un CD. Sinon, s'il fallait repenser vinyle dès le départ, ça serait peut-être différent, tu vois.
Ben Patrick a fait un super gros boulot parce qu'il a numérisé un nombre de cassettes plus ou moins bon état et tout.
Mmh.
Et le premier jet, il y avait combien de morceaux? On a choisi dans combien de morceaux 170, je crois, un truc comme, oui, ça. Enfin, des fois, il y avait 5 versions d'un même morceau, mmh, mais pour dire, après, il a fallu rétrécir.
Choisir la version qu'on préférait, tout ça.
Voilà.
Oui, oui, donc une fois le choix des morceaux fait, ça c'était marge d'approche déjà conséquente. Donc il a fallu se mettre d'accord sur, bon, c'est Loul, bien connu sur Grenoble, qui a un studio d'enregistrement qui a masterisé tous les titres pour qu'il y ait une unité.
Oui, oui.
Auparavant, d'autres personnes s'y étaient collées, dont Pex, notamment un ami de Ferré Musique, rue de Génicieux. Et puis donc, on a réussi à sauvegarder une unité sur les deux faces, malgré des sources très 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 différentes.
Bah oui, parce que forcément, le morceau qui est enregistré à la télé, il n'a pas le même son que une répète dans la Batcave.
Les concerts de Saint-Martin-le-Vinou, At a Time, Love Drugs, c'est des morceaux qui sonnent très très bien, et d'autres, bon, on ne peut pas les faire sonner mieux que ce qu'on a pu faire.
C'est Gilles Barjot là, qui travaille à la source, qui à l'époque était sonorisateur à TES, qui nous a fait... puis qui nous a passé la cassette du concert, quoi. Et donc, on a récupéré ça dessus.
On
donc,
en profite pour le remercier une énième fois.
Il faut. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu aussi une réunion d'amis, ce disque.
C'était le but. À la base, c'était vraiment le but. Parce que les années passent, et qu'est-ce qui est important? On se rend compte que c'est les potes, quoi.
Oui, ça le fait pas mal,
Ouais, donc important de revivre tout ça. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'on sera amené à le faire, de publier tous les témoignages que l'on a eus de sympathie et de gens à qui vraiment ce disque a fait un plaisir énorme.
Bah oui.
Même nous, on se dit, rien que pour la joie que l'on procure, on a bien fait de faire ce truc-là, quoi.
C'est pas mal. Et puis d'ailleurs, puisque à votre place, il y a de cela quelques semaines, il y avait... je vais retrouver leur nom parce que ça m'évitera de les écorcher, parce que comme je suis dyslexique, c'est pas évident. J'avais reçu jeune demoiselle qui ont fait Grenoble Calling.
Ah ouais, ok, Margot.
Ouais. Ouais. Mais alors il faut qu'on écrive beaucoup plus gros sur cet écran. Margot Capelier et Nicolas Bonani. Je crois que j'ai pas écorché les noms pour une fois. Donc dans le livre Grenoble Calling, aux éditions Le Monde à l'envers, quand on lit ce que vous racontez, en fait, on sent bien qu'il y avait plein de gens tout autour de vous qui vous ont filé un petit coup de main, poussé, encouragé, etc. Et que c'était pas juste les quatre musiciens et puis
la galère. On faisait des grosses fêtes tous ensemble, puis on allait se soutenir les uns les autres dans les concerts. On allait voir donc ces concerts à Lancet, c'était quand même un truc, quelque chose de fédérateur, quoi, un truc fort et tout. Après, on se retrouvait à Rock Contact, et puis après, dans les bars qui étaient à côté et tout. Enfin, bon, c'était...
On se prêtait du matériel, on se donnait des conseils, on filait des plans pour jouer. Enfin...
Ouais.
Tout ce qui crée une scène, en fait.
Ouais,
et tout uni à travers la musique, quoi.
Et ça se poursuit quelques décennies après, avec, avec ce projet de disque qui est arrivé un peu...
Ben oui.
Comme disait Patrick, il est arrivé comme ça. Patrick a commencé à dire, tiens, je vais compiler tout ce qu'on... Comme on a les possibilités techniques de le faire, tout ce qu'on a sur cassette. Alors, je vais le mettre...
À dispo
et tout. Après, on a choisi. Et après, il est parti. Il s'est dit, on va faire un CD, comme il disait, pour les potes et tout. Puis finalement, ça prenait de l'ampleur et tout. Puis, donc, on est arrivé au vinyle qui, pour nous, c'est un super bel objet.
Tu m'étonnes.
Là où je peux dire que ça a été quand même difficile de choisir les morceaux, c'est que sur la liste des 170 morceaux qu'on avait chacun, fallait voter, quoi. Il n'y en a qu'un morceau qui a été choisi par tous les quatre.
Après, il a fallu négocier.
Non, mais du coup, celui-là, mais il n'est même pas sur le disque, il est sur le bon téléchargement. C'était Shine Not Me. Malheureusement, le son pêche un peu. Donc,
ouais, des fois, c'est...
Mais c'est vraiment le seul qu'on ait choisi tous les quatre.
Unanimement, à l'unanimité. Comment il s'est fait après parce que donc on disait qu'il y a eu des problèmes de retard de machin. Une fois que vous avez eu sélectionné les morceaux que vous vouliez mettre sur le vinyle, plus ceux que vous vouliez mettre sur le coupon, comment ça se fabrique un disque ?
Eh bien, bon, tu peux pas le fabriquer dans ta cuisine. Hein, donc tu tu contactes ce qu'on appelle un presseur.
Ouais.
Alors on a fait faire, on a contacté trois sociétés. Et il a fallu que je relance plusieurs fois, j'ai jamais eu de réponse, donc on a laissé tomber. C'était des gens du Midi, je ne me rappelle plus les noms. Et il y en avait une autre à côté de Verency.
Oui.
Et une autre qui s'appelle Distrolution Merch. Et en fait, eux ont été très réactifs. Ils ont un site qui est très très bien foutu. Du coup, tout de suite, on sait où on va. Et puis, il y avait un interlocuteur en face. Ça n'a pas empêché de gros soucis, de délai, parce que le pauvre, il n'était qu'intermédiaire finalement, avec l'usine qui fabriquait. Mais bon, ils nous ont donné tous les outils pour fabriquer les pochettes. Alors, même chose, la pochette, ça a été un grand moment.
Oui.
Parce qu'aucun de nous, c'est très difficile en fait, il faut savoir maîtriser l'outil Photoshop, etc. Et heureusement, on s'y est mis à plusieurs, il y a eu le fils de Christian, Léo, et c'est mon frère finalement dont c'est le travail. Lui, il travaille avec Sinsemilia, avec son propre groupe digital. Et avec toutes les idées qu'on lui a données, on a fait le projet de la pochette. Donc, il faut faire la pochette. Une fois que les morceaux sont mixés, prêts à être gravés, il faut la pochette. Et puis après,
t'envoies le tout. Et puis, tu croises les doigts.
Oui, on a créé la page Facebook. Et puis, franchement, ça a marché très vite. Ça a très bien fonctionné.
Oui, c'est le premier pressage est parti tout de suite.
Ah oui, en une semaine quasi.
C'est ça. Il a fallu être réactif sur cette affaire-là.
Ce qu'il y a, c'est qu'on va dire que c'est la magie entre guillemets, de Facebook et tout, c'est que ça s'est répandu. Et en fait, quand on regarde bien, on a vendu plus d'albums à l'extérieur qu'à Grenoble. Parce que t'es les amis des amis des amis et tout là, et ça...
Oui, puis les gens sont dispersés, tout le monde n'est pas resté vivre à Grenoble non plus.
Donc il y en est parti en Italie, dans la France, de partout, dans toutes les régions.
En Angleterre, au Danemark, et il y en a un que j'ai livré à Valence qui partait en Australie. pour l'anecdote.
D'ailleurs, grosse connexion l'Australie pour les Batman. Il y a quelques groupes que vous aimez bien qui viennent de là-bas.
C'est par Closer. Tu m'étonnes. Les groupes, ils venaient jouer sur Grenoble. On les connaissait. On a fait une petite tournée avec les New Cross. Le chanteur, c'est quand même Rob Younger de Radio Burnman et compagnie. Là.
Ça impressionne. Moi, je me suis retrouvé dans la loge avec Rob Younger et les New Christ, qui est un groupe que j'adore. Et moi, j'étais là, je voyais le Père Noël, quoi. C'était assez magnifique.
Et nous, on a fait plus fort. On a fait bataille de Polochon avec.
On n'a pas les mêmes relations avec ces
dans un dortoir en Bretagne.
En fait, vous avez beaucoup joué, vous avez fait beaucoup de concerts pour un groupe dont c'est pas le métier. Enfin, pour des musiciens dont c'est pas le métier, je veux dire.
On en a fait beaucoup, enfin pas mal. Enfin, c'était pendant nos vacances, quoi, grosso modo. D'ailleurs, Quand on s'est arrêté, moi je sais que j'étais HS parce que aucune vacance, c'était tout consacré pour les Batman et après le bâtiment quoi. Enfin, c'est pas de...
c'est pas les métiers de tourpeau, non. Ouais.
Donc Patrick Charpentier et tout, tu vois, c'était pas. Mais bon, ouais, on a tourné. Je sais pas, on devait faire une quarantaine de dates par an.
Oui, grosso modo, on jouait quasi tous les week-ends. Sans arrêter les trois répétitions habituelles.
Ouais.
Et puis une ou deux tournées par an une quinzaine de jours. Quoi.
Ouais.
Forcément, ça explique qu'on soit efficace de répéter trois fois par semaine.
Il n'y a pas de secret, hein, travail qui paye.
Le talent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout.
You don't work, you can't eat.
Ouais, ça, c'est sûr.
Ça, c'est James Brown qui dit ça.
On ne s'écouterait pas un petit morceau ?
Allez.
Back from the Stone Age, ça c'est le troisième album des Batman, constitué de plein d'inédits, de versions que vous n'avez jamais entendues avant. Et évidemment, un morceau emblématique des Batman, c'est The Beat. Ça vous va ?
Oui. Tempo multiplié par 4 par rapport à la version studio.
Survolté.
Une version tendue, dirons-nous. Vous êtes dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et ce sont les Batman maintenant.
Go rush Alaska, black light jacket uniform. Two by together in a storm. Start a sound dizzy, start a sound river rushes, start a sound. Is the beat? Kiss her on her feet. Is the beat? Kiss her on your.
Et tout ça avant que soient inventées les boissons énergisantes.
Donc à tous ceux qui pratiquent, qui commencent à apprendre la langue anglaise, il faut bien dire the beat.
Ça me rappelle à l'Élysée Montmartre à Paris, à la fin du concert qu'on avait fait, le public est venu nous voir, il nous dit. Ah, on n'a jamais vu un groupe aussi heureux de jouer.
Oui, c'est vrai que dans les années 80, on a eu quelques groupes qui tiraient la gueule quand même, hein, quand ils étaient sur scène.
Ouais, mais c'était pas notre style.
Non, non, quand on regarde les vidéos et les photos, on voit bien.
Il n'y avait pas de quoi être triste. Hein.
Ben non, avec un tempo pareil, ça donne envie de bouger.
Alors, The Beat, une petite histoire sur le morceau, c'est un copain qui avait ramené, Alain, qui avait ramené un 45 tours d'un... il avait vu ce groupe, c'était des Hollandais.
Des Hollandais, c'est un groupe hollandais.
Un groupe hollandais, ouais, il avait ramené ce 45 tours de là-bas, et il n'y a pas du tout de guitare, enfin c'est basse batterie tout le long. Et nous, on l'a retransformé, on a rajouté les grattes à la fin et tout. Et c'est un des morceaux, généralement, c'est là où les barrières s'envolaient et compagnie. où ça sautait dans tous les coins, dès quand les guitares rentraient à la fin. Quoi.
Ouais. Ah ben, il y a un petit côté frénétique, ouais.
Ouais. D'ailleurs, à la fin des Batman, c'était... si tu veux, au premier morceau, ça partait dans tous les sens. On avait l'impression de plus qu'il n'y ait plus de lien entre nous, ce qu'on pouvait donner et ce que les autres recevaient, qu'il y avait quelque chose qui explosait, tout simplement. Et c'était frustrant un peu pour nous.
L'impression que les gens n'écoutent pas la musique que tu fais ?
Voilà, ouais. Enfin, moi, ça nous faisait cet effet à la fin.
Et justement, après les Batman, vous avez fait quoi ? Vous avez tous continué un peu à jouer quand même ?
Bah moi, j'ai continué dans le bâtiment déjà.
Il faut bien manger maintenant.
On est retourné sur les chantiers.
Il faut bien manger.
Bah perso, moi j'ai jamais arrêté de jouer, j'ai même joué dans deux groupes à la fois des fois, et j'ai pas cherché forcément, mais c'est plus facile quand t'es batteur, quand t'es chanteur et tout, c'est changer de style et tout, j'imagine que c'est pas facile, tandis que moi je m'adaptais à...
Parce que vous voulez
les gens. On me demandait de jouer, généralement je disais oui, si les gens étaient sympas, avec qui je m'entendais bien, donc... Après, j'ai fait plein de styles, je ne vais pas tout énumérer, mais je suis passé du hardcore à la chanson. moi, il n'y a rien qui me fait peur, pourvu que...
Je m'amuse.
Ouais, pourvu que je m'amuse et que... Il faut quand même qu'il y ait un petit côté niaque, quand même. Faut que le coup de caisse claire, il soit là, quoi, c'est tout. Quoi.
Puis qu'il y ait une bonne alchimie avec les gens.
Voilà, ouais, c'est ça.
C'est déjà le plus important quand on est dans le local de répète, parce que ouais, si on n'aime pas les gens, c'est compliqué.
Et puis, chercher... chercher à produire, quoi. Donc, comme je te disais, ça a toujours été des compositions. Et chercher à faire des concerts, à faire des enregistrements, tout ça, quoi. Voilà, c'est un peu le but du truc, quoi. Sinon, on se fait chier, quoi.
Et moi, chez Patrick ?
Mais moi, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Sammy Go Round. On a fait quelques concerts et puis, en fait, j'ai arrêté. Ou on a arrêté... Enfin, on avait pris tellement l'habitude de jouer, de travailler énormément pour arriver au maximum de ce qu'on pouvait faire avec les Batman, que ce côté de faire un groupe, histoire de faire de la musique, il y a quelque chose qui me manquait.
Ouais,
Gros boulot qui me manquait, en fait. Je pense que c'est pour ça. Et après, j'ai fait du chant, j'ai commencé par le gospel pour apprendre à chanter. Mmh. Et maintenant, je fais de l'opéra.
Voilà.
Donc, tout mène à tout.
Ça. Là, il y a moins de grosses caisses d'un coup. Là, le kick de caisse claire, il n'est pas pareil. Hein, tout de suite. Il n'est pas sur le même tempo. Hein. Ça rigole moins, là. C'est-à-dire qu'au niveau des tempos, on ne va pas rester sur les choses bancales. Là, au niveau travail, l'opéra, ça doit te satisfaire.
Ah bah, c'est sûr.
Oui, au niveau vocal, c'est infini. La technique vocale du chant est infinie. Et là, on prépare Cabaret et Roméo et Juliette pour le premier semestre 2022 avec la Fabrique Opéra à Grenoble.
Oui, et Cabaret, la comédie
musicale qui se passe à Berlin. Oui.
Adapté au cinéma par Bob Fosse.
Oui, avec Lisa.
Classieux.
Oui, c'est swing, ça, c'est pas vraiment de l'opéra en fait, c'est plus comédie musicale.
Ouais, c'est carrément comédie musicale, ouais. Mais c'est comédie musicale high level, quoi. C'est pas une comédie musicale française, on va dire.
Ça me rappelle une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère. C'est un gars qui fait la manche en jouant du violon, et puis il y a un gars qui vient le voir qui lui dit « Pardon, monsieur, pour aller à l'opéra, s'il vous plaît, l'autre, il lui dit « Putain, faut bosser, hein.
» Excellent. Et donc vous allez monter les deux au premier semestre ?
Ouais. Début avril, je crois, et début juin. Ou fin avril, début juin. Et oui, puisque Covid étant passé par là, Roméo et Juliette est resté dans les tuyaux.
Cartons, oui.
On était prêt à rentrer en production quand tout s'est arrêté.
Mm-hmm. Et ce sera au summum ?
Au summum, oui. Donc on va tâcher de remplir 6 fois le summum.
Mais en une fois ?
Non,
pardon. Ah, c'est cool. Tu viendras en parler ?
Ah, avec plaisir, mais complètement.
Ouais, carrément, parce que c'est quand même une grosse aventure.
Puis il y a beaucoup de choses à dire.
La production, les costumes, les décors. Enfin,
il y a énormément de professionnels qui travaillent pour ces projets.
Des
et
écoles.
Pas que. Il y a toutes les écoles, il y a toute l'agglomération.
Voilà. C'est un projet vraiment de l'aglo.
Et c'est nationalement, chouette. En fait, j'ai appris récemment, enfin, je le savais, mais il y a vraiment une structure nationale. Il y a plusieurs villes qui ont leur fabrique, Nantes, Nancy. Et dans le Midi aussi, je crois. Et puis, il y a même encore d'autres structures avec d'autres noms qui font les mêmes projets.
Oui, c'est bien. Parce que dans les écoles professionnelles, quand les élèves ils travaillent et qu'ils savent que ça va aboutir à quelque chose d'aussi important qu'un spectacle sur scène, au niveau motivation et au niveau envie, c'est quand même assez important.
Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes de musicologie qui sont avec nous et c'est très sympa.
Et puis, les Batman, vous avez sorti un troisième album, mais il y a encore deux, trois morceaux comme ça qui existent.
Ah, ben oui. Ah. Oui, ben écoute, il est tout bon, alors. C'est... Alors, il est tout bon, mais si tu veux, je ne sais pas le temps qui nous est imparti et qui nous reste.
Bah, il nous reste 7 minutes.
7 minutes, alors, parce qu'on a amené un inédit avec nous.
Bah oui.
Qui s'appelle Big Fat City, qui est enregistré à la Batcave. Alors, celui-là, il est de 89, ou alors vraiment fin 88.
Fin 88,
ouais. Ouais. Et, et du coup, c'est plus Miguel qui joue de la guitare, c'est Claude Andrieux, un pote qui logiquement prenait la suite, si on n'avait pas arrêté, quoi. Mmh. Donc, le style, bon, est très, très concentré, mais la composition est très bonne. On aime bien ce morceau et on est content de te l'emmener.
Et donc, il ne se trouve pas sur le bon de téléchargement qui est avec la compile vinyle ?
Non, il faudra attendre le prochain 45 tours.
Vous allez le sortir en 45 ?
Non, c'est... Non, pour l'instant, non.
Mais si vous vous poussez un peu, peut-être que... vous avez des projets plus immédiats ? Toi, Monsieur Christian, je sais que tu joues dans un nouveau groupe.
Ouais, je joue dans un groupe qui s'appelle Post Atomic Trio.
Voilà.
Et bon, il y a... Je crois que c'est cette semaine, on a appris qu'on allait faire la première partie de Laetitia Sheriff à la Maison de la Musique à Mélan.
Ouh, classe !
Donc, ce sera au mois de mars.
Ouais, de Madame Laetitia Sheriff, c'est classieux. Et la Maison de la Musique de Mélan, c'est quand même bien pour... C'est une belle scène.
Ah bah ouais,
on est bien là-bas.
Ça. Ouais, ouais. Ça donc, nous, on est contents. On a fait un bon concert à la salle René Proby le 1er octobre. Et là,
pour la sortie de votre CD 4 titres.
Notre 4 titres, ouais. Et là, on est en pleine phase de compo. Enfin, tu sais, c'est toujours pareil. Toi, quand t'as de l'actu, quand ça bouge un peu, ça te motive pour encore en faire encore plus.
Ça remet un coup de pied aux fesses, pour être poli.
Ouais.
C'est cool.
Voilà.
Donc, en marche à la Maison de la Musique de Mélan.
Ouais.
Ça va le faire, ça aussi.
Je crois que c'est le 18, il me semble.
Ouais, mais on en reparlera.
Ouais.
On va reparler de tout ça. On finit avec donc ce morceau, cette version inédite, Big Fat City.
Yes, sir.
Alors, en l'occurrence, ça parle peut-être de Madrid.
Forcément. Bon, merci d'être venu.
Merci à toi. Merci à toi.
Passez une très bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Okay. Rock'n'roll ou opéra. Rock et opéra. Ça ferait un bon thème d'émission.
Rock opéra, c'est un style qui existe.
Bah oui, c'est bien. Ça donne pas toujours des trucs formidables.
Non. Il y a des mélanges de genres qui sont pas.
Qui marchent pas à tous les coups. Les Batman pour finir cette apérophonie. Merci de votre attention. À très bientôt.
Ciao.